Balado Gazette, la plateforme de diffusion de création radiophonique vous propose Culture 5. Bernard Laurent, c'est à vous.
Je voudrais aborder avec vous une question essentielle. À quoi sert la philosophie ? Je répondrai à rien, sauf pour ceux qui en ont besoin. Reste à déterminer qui sont ceux qui en ont besoin, me direz-vous. Mais comment les repérer ? Je ne sais pas. Et si on imagine naïvement qu'on pourrait le savoir, aurait-il besoin de la philosophie tout le temps ? À quelle occasion ? Dans quel but ? Et de quelle philosophie aurait-il besoin ? Autant de questions sans réponse autre que celles venant de celui qui les a posées. Et pourquoi cette impossibilité de réponse acceptable pour tout le monde ? Peut-être parce que la réponse vient de celui qui a posé la question. Alors maintenant, changeons de point de vue. Au lieu de poser des questions soi-même et de s'éreinter à chercher des réponses impossibles, pourquoi ne pas demander à l'autre non seulement de poser des questions, mais aussi de proposer des réponses ? Exemple. Un des piliers de l'enseignement de la philosophie occidentale est cette affirmation de René Descartes, 1596-1650, je cite « Je pense, donc je suis ». Très vite résumé, j'existe parce que je suis capable de penser. Sauf qu'il y a des gens qui pensent mais qui n'existent pas, et qu'il y a des gens qui existent mais qui ne pensent pas. Mon petit René, va falloir revoir ta copie. Et pour t'aider, je te proposerai volontiers d'inverser la proposition. Tu penses, donc je suis. Autrement dit, j'ai une chance d'exister à condition que tu penses, donc que toi aussi tu existes. Là, ça va mieux. C'est vrai, savoir que la vie de chacun dépend de la vie de tous les autres me rendrait plutôt raisonnablement optimiste quant à l'avenir de l'humanité. Il reste cependant un problème d'homophonie. Un palefrenier de mes amis m'a fait remarquer un jour, entre deux reprises, « Tu penses, donc je suis... » Mais comment écris-tu « pense » ? Avec un « e » ou avec un « a » ? Et puis un jour, un dictateur de mes ennemis me faisait remarquer, entre deux séances de torture, « Tu penses, donc je suis... » Suis, ça vient du verbe être ou du verbe suivre. Ce jour-là, j'ai failli arrêter Culture 5. Alors, pour répondre définitivement à la question « À quoi sert la philosophie ?», je répondrai de manière non moins définitive « À rien », surtout si on ne s'en sert pas. Il y avait aussi « Je pense, donc tu suis », ça c'est de Pierre Desproges dans « Pour le rire et pour le meilleur », et que penser de la femme de l'ébéniste en colère dans l'atelier de son mari qui s'exclame « Alors, toi, tu ponces et moi, j'essuie. » On arrête là. Je crois qu'il est temps de donner la parole au chroniqueur. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, vous allez faire connaissance avec les tomates de Patrick Vaquet, la tronçonneuse d'Edouard Jouan. Et vous retrouverez après deux semaines d'absence le Nashrouddin de Magdelaine. Allez, à la une, à la deux.
Nous étions trois, je commence par moi. Moi que l'on traite de poète, car je fais des vers un hivernais, très raffiné, surnommé Ox et Bête. Laisse tête de Nevers, j'ai tout dit sauf le philosophe. Je vous présente trois dilettantes, et je vous dis nous, moi, le philosophe. Et l'esthète est mon qu'une présentation. Façon, façon, c'était l'été, et tel été notre soif de tout ce qui est à que même un piano aurait été par nous tété avec félicité. Si licite c'eût été même illégal, quelle ville régale nous eussions fait d'un jus de fluxion frais. Et je vous dis nous, moi, le philosophe, et l'esthète mon qu'une soif à ce point. Ça ne se passe point, mais v'la-t-y pas, là a dit pas. Je vois des murmures sur un mur, et je murmure ami haussé, à ami osé. En poussant par en tous mes souliers souillés. Quand je suis sulfette, une Suisse helvète me dit sache que cette chose ça s'achète. Mais je lui dis nous, moi, le philosophe et l'esthète aimant qu'une phase de fesse passe de pèse. Elle se fâche et là c'est vache. Sous le séant ment, la sens allemand, à le sale moment, elle me bascule et m'émascule. Qu'elle s'en compère, disent mes compères. L'ampoule de père, elle les repousse pour lier ma bourse d'un fil à plomb. À quelle ville à plomb? Mais je lui dis, nous, moi, le philosophe et l'esthète aimant qu'une fausse asepsis face à ses petits.
Vous avez reconnu Bobby Lapointe. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas tout compris. Et c'est pourquoi, vous comme moi, nous pourrons retrouver le texte de cette chanson dans le bas de la page de ce Culture 5. Ah bah oui, oui, je précise, c'est dans le site balado-gazette.fr. À suivre, la tronçonnite aiguë, un texte d'Édouard Jouan, notre barde briochin, texte que j'ai eu le plaisir d'enregistrer.
Oh putain.
Après la Covid et d'autres moscovides atrocités, en bon Cassandre de service, je me dois de vous annoncer, pour l'automne, une autre catastrophe. Une importante épidémie de tronçonnite aiguë qui pourrait frapper l'ensemble du territoire boisé. Il s'agit là d'un fléau récurrent, consécutif aux fluctuations du coût de l'énergie et qui se traduit automatiquement par une ruée sur tout ce qui peut flamber et alimenter tout appareil de chauffage, tels les poêles et autres inserts. La tronçonnite, on la repère aisément à de rageurs rugissements, à une assourdissante pétarade autour des arbres condamnés à être débités en morceaux. Ceux-ci, entassés en stère sur des talus décimés, offrent un triste spectacle qui accentue le caractère funèbre de l'hécatombe. Jusque-là, chaque hiver, nous n'avions à déplorer qu'une tronçonnite sélective qui ne s'attaquait qu'aux sujets les plus chétifs ou les plus malades. Cette fois, à l'approche des grands froids, nous devons nous attendre au pire, à une entreprise de destruction massive qui risque de porter atteinte à tout un écosystème déjà bien mal en point. Comme vous avez eu l'occasion de le remarquer, plus le prix du litre de fioul s'envole, moins les arbres rigolent et plus on fait fric de tout bois. La tronçonnite saute alors dans le premier talus venu, puis un autre, puis sur un autre, et ainsi de suite. Il tombe des cordes, et plus la corde monte, plus elle ne cesse d'en descendre, beaucoup et de plus en plus. Une insatiable dévoreuse, vous dis-je. C'est un mal qui répand la terreur, mal que le siècle en sa fureur propage sur tous les talus de la terre. La tronçonnite fait à la gente végétale une guerre impitoyable. Les arbres ne meurent pas tous, mais tous en sont frappés. Bon, la colère et la douleur m'égarant dans les fables de La Fontaine, vous l'avez remarqué, je préfère m'arrêter là avant que mon propos ne tourne en désolant rondin. Je terminerai ce propos en paraphrasant Brassens qui rappelait qu'auprès de son arbre, on pouvait encore et très longtemps vivre heureux, à condition de savoir, le moment venu, endosser un bon pull, voire deux bons pulls, en cas de chute brutale des températures, bien sûr.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi. Sauf naturellement des flûtes, j'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. n'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais me brûler la lippe. Le tabac, la vache enragée, dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai des pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur, ni sous ma lippe, le coup de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant. D'avec ma femme, j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez au milieu de la figure. Je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Brassens enregistré en 1972 à Bobino, la mythique salle de music hall, sise au 20 rue de la Gaîté, dans le 14e arrondissement de Paris. Vous écoutez Culture 5, le magazine de la rédaction de balado-gazette.fr, et je vous espère en aussi bonne forme que les tomates de notre ami Patrick Vaquet. Après les seins de glace et avant le temps des cerises vient celui du potager. Ce temps où, après maintes réflexions sur la place que vont occuper dans le jardin potager les différentes plantes légumières, le jardinier amateur plus ou moins averti se préoccupe d'associer entre eux les différents plants de légumes. Faut-il planter les choux près des salades, près des betteraves ou près des poireaux? Ne riez pas, c'est une question très sérieuse donnant lieu à nombre d'écrits savants. Et pour mes tomates, mes jolies tomates, auprès de quelles plantes seront-elles le mieux placées pour donner toute leur saveur et toute leur couleur? Mes tomates, mes jolies tomates, moi qui vous aime tant avec une pincée de sel, un filet d'huile d'olive et un soupçon de basilic. Simple mais tellement bon. Une variante avec un œuf dur vous donne un plat succulent. Mais plus compliqué à préparer car il faut faire cuire l'œuf et non la tomate. Savez-vous que la tomate est un fruit dans la classification botanique et un légume dans la classification culinaire? Si vous ne le saviez pas, remerciez Culture 5 de cette précision. Mes tomates, mes jolies tomates, je vous cultive en pleine terre car j'aime vous voir libre au vent, j'aime voir les gouttes de pluie perler sur votre peau, j'aime toucher votre peau réchauffée à la chaleur naturelle du soleil. Mes tomates, mes jolies tomates, moi qui refuse de vous emprisonner dans une serre par respect de votre liberté, un grand merci à Culture 5 qui me permet aujourd'hui de dénoncer ce type de culture. Je dis aux adeptes de la serre, allez partager les jours et les nuits de vos tomates emprisonnées et vous comprendrez alors le mauvais traitement que vous leur faites subir. Bourreaux de tomates, mes tomates, mes jolies tomates, vous qui êtes les petites reines de mon potager, pourquoi me trahissez-vous chaque année avec vos maux et maladies diverses? Mildiou, odium, botrytis, alternariose, cul noir, maladie bronzée et que sais-je? Moi qui vous cultive dans le respect des conseils des anciens, moi qui vous soigne en appliquant les trucs et astuces que je glane dans les bouquins et sites spécialisés.
moi qui n'hésite pas à vous arroser avec du lait et de l'eau quand vous avez le cul noir. Pour quel résultat? Rien, nada. Pourtant, j'ai tout essayé comme type de lait. Écrémé, demi-écrémé, entier, bio ou non. Personnellement, j'ai comme un gros doute sur ce traitement pourtant très recommandé. Mes tomates, mes jolies tomates, je vous annonce que je renonce à vous appliquer les conseils des anciens et à vous soigner avec des trucs et astuces conseillés par certains, déconseillés par d'autres. Mes tomates, mes jolies tomates, cette année je vous laisse libre de faire ce que vous voulez. Pas d'entrave. Soyez libre et vivez sereinement votre culture. Seule mon assiette vous attend, la salière à côté. Le seul acte de culture que je me permettrai sera celui d'écouter Culture 5 en me balandant dans vos rangs. Mes tomates, mes jolies tomates.
Je vous aime.
À la prochaine fois et bonjour chez vous. Hé hey William, essaye d'imaginer un peu la tête des gens si après avoir partagé avec mes tomates Culture 5, j'ai enfin cette année de belles et grosses tomates. Révolutionnaire, non?
Pour savoir, il faut donc attendre quelques semaines. Mais si tu as des tomates, quelle pub pour Culture 5 ce sera?
Culture 5, à consommer sans modération. Avec ou sans sel?
Et vous aurez remarqué, amis auditeurs, la présence fugace mais efficace de William, notre webmaster préféré, dans cet hommage érotico-horticole à la tomate. Mais ne nous égarons pas et restons dans le jardin et la poésie.
Entrez !
Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.
Tomates nuit et jour, ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines, vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs, délaissent les patates pour ce fruit écarlate, la tomate en salade ou tomate farcie. À l'opéra, en chantant la Tosca, un grand ténor ayant manqué le la, en reçu ce soir-là, des tas, sa femme en sortant de là le consola. Mange des tomates, mon amour, mange des tomates, nuit et jour, ça donne une bonne mine, c'est plein de vitamines, vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Ces mots. Supprimons la bomba, supprimons la, et remplaçons-la par ce fruit délicat. Mange des tomates, mon amour, mange des tomates nuit et jour. À la tombe qui éclate, préférons les tomates. Les tomates, ça fait mal quand ça tombe sur le nez.
Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé.
Des tomates, mon amour. Mange des tomates, mon amour.
Eh bien, vous voilà chargés, chers auditeurs, de cette antienne absolument redoutable, et je ne vous donnerai le nom de son interprète que si vous me le réclamez à contact@balado-gazette.fr. Nous retrouvons maintenant, avec un grand bonheur, Magdelaine et son Nachroudine.
Apercevant un objet brillant dans le caniveau, Mulla Nachroudine se précipita pour le ramasser. C'était un miroir de métal. Voulant l'examiner de plus près, il y vit le reflet de son visage. Quelle horreur ! Pas étonnant qu'on l'ait jeté. Un objet aussi laid ne pouvait séduire personne. Je n'aurais jamais dû le ramasser. Un cousin de province vint voir Nachroudine avec un canard. Celui-ci le remercia, mit la volaille à cuire et partagea le plat avec son invité. Peu de temps après, un autre visiteur se présenta comme l'ami de celui qui lui avait apporté le canard. Nachroudine l'invita lui aussi à manger. La même chose se reproduisit à plusieurs reprises. La maison de Nachroudine était devenue une sorte de restaurant pour visiteurs de province. Chacun était l'ami plus ou moins proche du cousin qui avait offert le canard. À la fin, Nachroudine sentit l'exaspération le gagner. Un jour, on frappe à la porte. Un étranger montre sa tête. « Bonjour, je suis l'ami de l'ami de l'ami du cousin qui t'a apporté le canard de la campagne. » « Entre, » dit le moulin. Ils se mettent à table et Nachroudine demande à sa femme d'apporter la soupe. L'étranger y trempe ses lèvres. « Ah, ça n'a pas grand goût. Pas plus de goût que de l'eau chaude. »« Mais quelle sorte de soupe est-ce là, moulin ?» Et Nachroudine de répondre. « Ça ? Mais c'est la soupe de la soupe de la soupe du canard. » À toute question, il y a une réponse, dit un moine en entrant dans la maison de thé. Nachroudine, qui devisait avec quelques amis, fit observer. Pourtant, un érudit m'a interpellé un jour avec une question à laquelle je n'ai su que répondre. Ah, si j'avais été là, j'aurais répondu, moi, à cette question. Pose-la moi. Bien volontiers. Il a dit. « Pourquoi t'introduis-tu par la fenêtre chez moi en pleine nuit ?» Le moulin venait d'être nommé magistrat. Il jugeait sa première affaire. Le plaignant exposa son problème de façon si convaincante que Nachroudine s'exclama « Je crois que tu as raison !» Le greffier lui fit signe d'attendre car l'accusé n'avait pas encore été entendu. Quand l'accusé s'exprima, Nachroudine fut si transporté par son éloquence qu'il s'écria « Je crois que tu as raison !» Agacé, le greffier objecta « Mais enfin, votre honneur, ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux !» Le moulin se tourne alors vers lui « Je crois que tu as raison !» Nachroudine cheminait sur la route en se disant « Beaucoup de gens pensent que les derviches sont fous. Pour les sages, au contraire, ce sont les véritables maîtres du monde. J'aimerais bien en mettre un à l'épreuve pour en avoir le cœur net, ce qui me permettra aussi de me mettre moi-même à l'épreuve. » C'est alors qu'il vit s'avancer vers lui une haute silhouette vêtue à la manière des derviches les plus réputés pour être exceptionnellement éclairés. Nachroudine l'interpelle. « Ami, je veux réaliser une expérience avec toi afin d'éprouver tes pouvoirs de pénétration psychique et de vérifier du même coup si je ne suis pas fou. »« Vas-y, » dit le derviche. Le mulla balaya soudain l'air de son bras, puis referma le poing. « Qu'est-ce que j'ai dans la main ?»« Un cheval, une voiture, un cocher, » répond l'autre sans hésiter. Irrité, Nachroudine conclut. « Non, non, le test n'est pas valable, car tu m'as vu les ramasser. »
Merci Magdelaine, tout est à méditer dans ces aventures de Nashruddin. Et on écoute maintenant un rocker flamand.
Je veux vivre dans un monde sans jalousie, sans amant, et où les pessimistes sont contents. Je veux vivre dans un monde sans papier, et où mon foie arrête de pleurer. Je veux vivre dans un monde sans pilules, et où les riches et les pauvres n'existent plus. Je veux vivre dans un monde où le chien embrasse les chats, et où ils dansent une rumba. Je veux vivre dans un monde où les malheureux sont heureux. Je veux vivre dans un monde où Dieu il est amoureux. Je veux vivre dans un monde sans chichi, et où les cons font pas. Je veux voler très haut, libre comme un poisson dans l'eau, et dans ma bouche pas de mots. Je veux vivre dans un monde sans cholestérol, avec une overdose de rock.
Qu'il est dommage d'arriver au bout de sa vie pour écrire de si belles chansons. Culture 5, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Edouard, Patrick et William. Et merci à Magdelaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera l'antépénultième Culture 5 de la saison. Mais on se retrouve n'importe quand sur balado-gazette.fr.
Mange des tomates, mon amour.
Ah non, pas ça! A ciao!